With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punchy. Et aujourd'hui, nos multiples accents sont tout à fait appropriés puisqu'on va vous parler de What If, une série américaine, et aussi un petit peu de Star Wars Visions. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils le disent au Japon, mais c'est une série en fait japonaise. Toutes les deux sont animées et on va vous en parler en français. Donc là, le trifecta, le triumvirat des langues de Super Laser Punch est réuni. Et les gens qui sont réunis également, c'est Johan, dont vous entendez le petit rire malicieux juste en background, et moi, Patrick, qui suis très heureux de vous accueillir. Comment ça va, Johan ? Est-ce que tu es en grande forme ?
Oui, ça va, je suis en très grande forme. On a vu plein de dessins animés, on va pouvoir en parler. Et j'adore voir des dessins animés, donc tout va bien. Et puis, ben, quand même, un petit peu un pincement, parce que là, il y a une grosse pause quand même jusqu'à la prochaine.
On va avoir un mois et demi sans Disney+.
Mais comment on va faire?
Bon, c'est un mois et demi sans MCU, mais il y aura dans une ou deux semaines Venom 2 qui va être disponible. Ouais. Du coup, c'est ouf, on est sauvé, toi tu es heureux, n'est-ce pas? Bon, on va parler en fin d'épisode en quelques mots de Venom 2 et peut-être de Venom 1 un petit peu aussi. Donc ça fait triple combo. What If, les trois derniers épisodes. Star Wars Visions, on a vu à peu près la moitié. On était genre très occupés, hein, donc on ne peut pas tout voir sur tout. Et puis quelques mots sur Venom, le film de Sony qui a au générique, le premier, une chanson de Eminem. Je ne sais pas si vous le saviez.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, le petit qu'ils ont pas du tout mis en avant, hein, d'ailleurs. C'est juste le générique à la fin. Et c'est bon. Venom, c'est un peu ridicule. Mais bon. Donc, est-ce qu'on commence avec What If? Du coup, on garde le meilleur pour le début. Je dis ça, j'en sais rien. Ça se trouve, tu as bien plus préféré Star Wars Visions aux trois derniers What If que sans tout spoiler. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même bons. Peut-être qu'on peut parler du premier d'abord, enfin du premier, de l'épisode numéro 7 d'abord, et puis du 8 et 9 qui sont un double épisode ensuite, parce que le 7, il est complètement indépendant. L'épisode numéro 7, c'est, que je vous donne le titre, « What if Thor were an only child ?» Et si... Comment ça se dit en français, « What if », d'ailleurs ? Tu sais ?
Je crois que c'est « What if », hein.
« What if », oui, d'accord.
Mais le titre est probablement « Et si », effectivement.
Thor était un enfant, un fils unique.
Unique. Ouais, c'est ça.
Exactement, le titre en français, c'est « Et si Thor avait été un fils unique ?» Et donc, et si Thor avait été un fils unique, c'est quand même un épisode qui est très différent des autres What If qu'on a eu jusqu'à maintenant, et à vrai dire de ceux qui viennent après. C'est le seul qui est un épisode vraiment comique, je trouve. C'est la base du truc.
On pourrait le mettre un petit peu en parallèle de celui avec T'Challa quand même. Alors, tu sais, les tons sont très différents, mais il y a quand même cet aspect un peu comédie. Tu vois, typiquement, la situation de Thanos qui est là et qui est dans l'équipe, mais qui continue de parler de son plan pour la moitié de l'univers, enfin, ce genre de choses-là. Ouais. Tu vois, pour moi, il y a un peu un truc similaire. Et puis, il y a tous ces personnages, hein, qui sont un peu communs à ces deux épisodes, d'ailleurs.
Et qui sont là juste pour rigoler et s'amuser, c'est vrai. Mais je trouve que dans celui de T'Challa Star-Lord, c'était un peu plus genre les héros gardiens de la galaxie, alors que là, c'est vraiment juste, ils sont là pour faire la fête et il n'y a rien d'autre. Et alors, du coup, t'en as pensé quoi en
Alors,
général, déjà, avant de...
moi, j'ai vraiment pas aimé cet épisode.
Oh là là,
Ouais, j'ai
pardon, je
vraiment,
peux pas.
vraiment.
Je suis
Alors,
choutré,
je
franchement,
l'ai.
là. Ok.
Je l'ai quand même préféré à, donc, je crois, au dernier dont on avait parlé, celui avec Killmonger, il me semble que c'était
Oui.
celui-là. Voilà, c'était quand même mieux, mais ouais, en fait, il y a des choses très sympas dans cet épisode. Il y a des choses qui m'ont fait vraiment rire, hein, sans. Il n'y a pas de souci. Et puis en plus, il y a une bagarre assez géniale pour le coup entre Thor et Captain Marvel. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, j'ai complètement décroché à la caractérisation de tous ces personnages qui sont là en mode fratrie, étudiant. Tu vois, c'est vraiment. Je trouve que ça marche pas des masses, quoi. Je sais que le Thor d'origine, celui du premier film, on peut le rapprocher un peu de ce Thor-là. On peut voir en fait comment ces personnages-là peuvent être en fait dérivés du même personnage, mais tous les autres autour, je trouve que ça marche pas, et notamment Jane Foster, voilà, qui je trouve très étrange en fait dans ses réactions, et je pense que c'est aussi dû, et comme d'habitude dans cette série, au format en fait, hein. Il faut quand même raconter leur histoire sur les 30 minutes, et tout est un peu trop parodié, et voilà, voir les gens faire la fête comme ça en mode ouais, en mode fratrie université américaine. Du dude dans tous les coins et tout ça, c'était ouais, ça m'a pas permis de rentrer dedans en fait. Donc j'étais content vers la fin quand il y avait vraiment les interactions avec Captain Marvel, mais tu vois là, typiquement à la fin où ça finit juste parce qu'on appelle la maman de Thor et tout. Enfin tu vois, moi ça j'ai pas super apprécié quoi.
T'aurais aimé qu'il y ait un grand méchant et qu'il faille se battre contre le grand méchant dans une belle bagarre avec des CGI. Tu veux que ça soit toujours la même chose, en fait, c'est ça.
Oui,
Quand
c'est ça,
on fait
ça
un
doit
petit
être
peu
ça, ouais.
original, ça te déstabilise. Écoute, moi, comme mon cri de complètement choqué vouloir laisser deviner. J'ai vraiment aimé, vraiment aimé. Je crois que c'est mon préféré, cet épisode. C'est
Ah,
marrant,
waouh, ok.
je crois que c'est la première fois qu'on est autant opposés
Ouais,
sur notre appréciation
je
de
crois
quoi que ce
aussi,
soit.
ouais.
C'est vraiment mon préféré. J'ai trouvé ça hyper drôle et j'ai trouvé ça hyper drôle qu'il n'arrête pas sur ce ton du début à la fin. En fait, c'est juste, et comme tu le dis, on peut tout à fait suivre le parcours de Thor qui, s'il n'avait pas été obligé de grandir, on va dire, avec Thor 1, bah, il aurait pu devenir un petit peu, rester sur cette voie et devenir complètement irresponsable. Et tout le ton vraiment décalé de bah, sa maman est pas contente et il essaye de faire de montrer qu'il étudie et tout ça, j'ai trouvé ça excellent. Et ça a vraiment, vraiment fonctionné avec moi. Le seul truc qui est un peu moyen, c'est que je vous avoue que je comprends pas très très bien pourquoi ils veulent absolument lui casser la gueule. Tout le monde se réunit genre « Ah, vite, les Avengers, il faut appeler Carol Danvers parce que sinon ça va être la fin du monde. » Bon, je comprends
Il a détruit
que...
des planètes. Il détruit des planètes en faisant la fête dessus, quand même.
Mais
Hein.
c'était
C'est un
pas
peu
lui.
le.
C'est pas ce qu'on comprend au milieu de l'épisode, que c'était pas lui et que ça n'avait...
C'est ce que lui dit, mais non, ça a l'air d'être lui, quoi.
D'accord. Bon, écoute. Ok. Bah, écoute, du coup, il y a encore moins d'incohérence dans l'épisode et il est encore mieux. Non, vraiment, moi, je l'ai beaucoup aimé. Alors, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, mais je trouve justement que oh, si vous l'avez pas compris depuis le temps que vous nous écoutez, si vous écoutez depuis un moment, moi, je suis vraiment très, très client de la caractérisation à rebrousse-poil de nos attentes. Et là, clairement, ils y vont avec un énorme. Enfin, c'est plus un stylo ou un pinceau, c'est ils y vont avec un balai, quoi. Ils font vraiment le truc à l'opposé de ce qu'on connaît. Donc, clairement, c'est pas très subtil, mais je trouve que ça fonctionne, c'est drôle. Enfin, moi, j'ai tout à fait accroché au truc. Et le personnage de Thor, party frat boy, qui a quand même son bon cœur au fond, tu vois, il est pas là pour foutre la merde, c'est pas un frat boy qui va te faire des rituels de, comment ça s'appelle, les hazing, les bizutages méchants, tu vois. C'est juste qu'il est là pour faire la fête et il veut que tout le monde s'amuse et il reste le gentil bête qu'il est à la base. Et je trouve que c'est vraiment juste bon enfant, comique, sauf bon quand il se tape sur la gueule avec Captain Marvel, mais ça fonctionne pour moi. Et je l'ai trouvé juste très drôle pour ça, léger. En fait, j'avais un sourire un peu bête sur le visage du début à la fin de l'épisode. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais bon, clairement, on est à l'opposé sur cet épisode. Peut-être que sur les suivants, du coup, bah, on va un petit peu se retrouver. Mais maintenant, j'ai peur parce que je me rends compte que tu n'es pas celui que je croyais, en fait, Johan.
Déjà, je peux dire, c'est what if Johan avait raison, puisque tout se regroupe.
Alors oui, tu sais, j'étais tellement content pour ça, déjà, quand j'ai vu donc, l'épisode 8, qui est What if Ultron won, et si Ultron avait gagné. Et effectivement, c'était ta prévision, quoi, cette partie.
Et du coup, bah, alors, juste, hein, j'ai quand même relativement bien aimé hein, le final. J'étais content que ça se regroupe. Et puis, bah, c'était chouette quand même d'avoir un peu un payoff sur tous les épisodes qu'on avait vus avant, même les moins bons. Tu te dis que c'était pas pour rien d'avoir vu les moins bons, quoi. Donc, non, c'est très chouette. Et surtout, en fait, et pour moi, c'est là la grosse réussite de cet épisode donc, du suivant. C'est justement bah, la mise en avant du Watcher, quoi, que je trouve vraiment très très bien dans la série. J'adore sa voix, j'adore aussi comment il réagit du coup à Ultron, etc. Et donc t'as toute une super bagarre entre les dimensions. Et puis il y a aussi pas mal. Enfin, on suit aussi en parallèle du coup c'est Black Widow et Hawkeye qui sont issus du monde de Ultron et tout ça. Et voilà, donc je trouve que c'est pour moi ça va, c'est vraiment un de mes épisodes préférés pour le coup, celui-ci. Celui avant le final hein. Je sais pas toi du coup, alors ça se regroupe, et toi est-ce que tu étais content que ça se regroupe ou est-ce que tu préférais quand même que ça reste des épisodes un peu séparés?
Non, si, moi j'étais très content que ça se regroupe, j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. Déjà avec l'épisode où Ultron a gagné, la manière dont les choses se passent avec Ultron, je vais pas trop en dire parce que ça pourrait en gâcher un petit peu pour quelques-uns, mais ça suit le template d'un autre truc qui se passe dans l'univers Marvel à un moment. Et qui est hyper bien utilisé en fait, qui est tout à fait adapté, et donc ça fonctionne très très bien. Alors la manière dont il tue Thanos, c'est quand même c'est un peu facile quand même hein. Thanos, on aurait pu penser qu'il aurait pu se défendre un peu mieux, mais bon, il l'a pas vu venir hein, voilà. Et la toute-puissance d'Ultron est marrante quand il monte en puissance dans le premier épisode. Comme toujours, hein, comme tu l'as remarqué, encore une fois, ça va très très vite. On a un montage hyper serré. C'est une demi-heure pour un truc qui aurait pu durer le double, où ils auraient pu mettre un petit peu plus de respiration dans le montage.
Ouais, de dramaturgie et tout ça. Aussi.
C'est ça.
Parce que finalement, c'est juste un montage ouais, de tout ce qui détruit. Il n'y a pas...
Voilà.
Pas grand-chose d'autre, quoi.
Et puis même, quand ils arrivent dans la base en Sibérie, c'est très rapide, et puis ils cherchent les trucs, et puis bon... Et Zola, pourquoi il accepte ? Bon, c'est pas grave. Mais c'est marrant. Et puis le deuxième épisode, effectivement, quand il commence à recruter les gens... Et entre parenthèses, je suis pas fou, hein, la variante de Gamora... recrute, on n'a pas eu d'épisode dessus.
Alors, ouais, ce que j'ai entendu sur le sujet, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de finir cet épisode-là, en fait.
D'accord.
Que ça aurait dû être un épisode de la saison 1 et que peut-être qu'ils le faisaient sur la. Peut-être qu'il sera dans la saison 2, mais que du coup, voilà, je crois qu'ils ont eu des problèmes aussi avec le Covid dans la production du.
C'est ce que j'imaginais, oui, parce que tous, ils viennent tous d'épisodes qu'on a vus, et puis Gamora, elle sort de nulle part avec Tony Stark. Bon, c'était un peu bizarre. Ouais. Mais oui, quand il réunit comment il les appelle, les Guardians of the Multiverse, j'ai beaucoup aimé aussi ce petit clin d'œil au nom d'équipe qu'il y a. Il y a plein de variations sur les noms d'équipe de plein de trucs, des Avengers aux Gardiens de la Galaxie. Il y a les Asgardians of the Galaxy dans les comics. Il y a plein de choses. Je ne sais pas s'il y a les gardiens du multivers, mais il y a plein de trucs de ce genre-là. La manière dont il récupère Doctor Strange Supreme, C'est bien foutu. Et puis, il y a eu, en fait, tu avais raison, les petits indices qu'il donnait tout au long de la saison se sont retrouvés de manière tout à fait cohérente à la fin. J'ai trouvé que ça fonctionnait très, très bien. Et évidemment, j'étais hyper content de retrouver Captain Carter, Star-Lord T'Challa et Party Thor. Black Panther Killmonger, je l'ai trouvé bon. Il était un peu...
Ouais, il était là, quoi.
Ouais, voilà, il était là, mais Party Thor, j'ai trouvé qu'il était super bien avec son Las Vegas, tu vois, ça m'a fait bien marrer. Gamora aussi, elle était juste là, bon, comme on n'avait pas le passif pour elle non plus, c'était peut-être normal. L'introduction avec Captain Carter qui fait la mission contre Batroc.
Ouais, de Captain America 2, là.
C'est ça, ouais. C'était très bien foutu, c'était plein d'action, ça a fonctionné. Et puis il y avait beaucoup de bagarres dans cet épisode, donc toi je suis sûr que t'étais content parce que visiblement t'aimes que la bagarre.
Oui. Moi j'aime que la bagarre, moi, ça y est.
Mais c'était bon, encore une fois, il n'y a pas mille choses à dire, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien, que ça réunissait tout ensemble, que ça fait de la saison un truc, cohérent. Et ouais, c'était les trois derniers là, c'était les meilleurs de toute la série, je trouve. Donc quand je disais à notre épisode précédent, j'imagine qu'ils ont gardé le meilleur pour la fin. J'ai pas été déçu du tout. Donc ouais, très content.
En fait, moi, quand j'essaie de faire le bilan vraiment de la série au complet, je garde quand même un peu une amertume. Je trouve que pour faire ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils auraient pu faire ce double épisode-là au bout du cinquième, quoi. C'est-à-dire faire quatre épisodes ou cinq épisodes grand max avant de réunir tout le monde. Je trouve que ça faisait ça se voyait, hein. À l'enregistrement d'avant, on commençait à être un peu lassé quand même de la faiblesse des épisodes parce que ça reste un format super limité, donc on n'a pas vraiment le temps non plus de s'attacher complètement au personnage ou de rentrer dans des choses un peu complexes et vu que il y a cette envie de côté What If de faire cette réunion à la fin, je trouve que ça faisait un peu prétexte et que tous les épisodes n'étaient pas vraiment super intéressants au final, quoi. Ils le sont parce qu'il y a ce payoff et du coup tu dis ah oui, ce personnage là c'est sympa de le revoir, mais en soi son épisode, moi j'ai pas forcément adoré, quoi. Et en réfléchissant à ça, je repense, ça m'a refaire penser au DCEU là, l'équivalent MCU de chez DC, où pour les réunions de personnages, à partir, je crois que c'était Batman versus Superman, je pense que c'était une des critiques qui ressortait, c'était un peu trop tôt, là où le MCU avait pris le temps sur plusieurs années de construire des personnages, etc. Et là, j'ai un peu cette sensation, c'est-à-dire qu'on les présente très rapidement, à coup d'une demi-heure chacun, dans des trucs très condensés, et puis hop, on les réunit. Mais du coup, moi, j'étais pas... Alors, c'était joli à voir, et j'étais un petit peu content, mais j'étais pas spécialement investi dans l'histoire globale. Déjà que ce sont des personnages alternatifs, tu te dis, bon, s'il y en a qui meurent, ça n'a pas d'impact sur le lendemain. Hein, mais voilà, donc du coup, je garde quand même, tu vois, un petit côté, une petite amertume. J'ai trouvé ça sympa, mais du coup, je ne suis pas spécialement hypé pour une saison 2. Quoi. J'aurais bien aimé qu'il continue What If, mais sur un autre format, plus sur des longs épisodes d'une heure, sans que ça soit une série de toutes les semaines. Quoi. Tu vois, que de temps en temps, on ait un épisode d'une heure sur un personnage. Et que au bout de 2 ans, et ben là, on est à une réunion ou un truc comme ça. Tu vois, j'aurais trouvé ça plus intéressant d'avoir plus de développement sur la partie justement fantaisiste du What If, et fouiller un peu plus ces univers-là comme ça, quoi.
Ouais, moi je pense que c'est un petit peu compliqué à faire parce que du coup tu développes des personnages autant que les personnages pas What If. Du coup, c'est plus vraiment un What If, tu vois. Ça devient What If, c'est tu poses une question, t'explores un petit peu ce que ça donnerait. Et puis tu passes à autre chose, parce que sinon c'est juste un autre personnage que tu développes quand il y en a plein, comme il y en a plein dans le MCU, même pas dans le MCU, pardon, dans les comics. Il y a plein de versions alternatives de plein de personnages. Ça existe déjà, ça, si tu veux. What If, c'est une proposition qui est différente. C'est juste qu'on pose les questions, des questions un petit peu wacky, et on se dit bon, alors ça donnerait quoi, et tu vas pas beaucoup plus loin. Sinon c'est plus la même chose, et c'est possible, hein, et peut-être qu'ils exploreront un petit peu plus, mais tu vois, comme je disais, des personnages alternatifs, Moi, je pense, par exemple, à des personnages comme Gwenpool ou Spider-Gwen. Je ne sais pas pourquoi je me concentre sur Gwen Stacy, mais il y en a plein des comme ça. Et même si on ne va pas dans des univers alternatifs, si on pense à des versions de Wolverine, bah, y en a plusieurs. Ouais. Il y a X-23, il y a Spider-Woman qui a été clonée de Peter Parker. Enfin, ouais. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont déjà possibles. Mais je comprends ce que tu veux dire. Pour être honnête, la série, c'est pas que je la trouve totalement invraisemblable non plus. Hein. Je la trouve sympa. J'ai trouvé que les trois derniers épisodes étaient très cool par rapport au reste de la série. Moi, mes attentes avaient été un petit peu amoindries avec ce qu'on avait vu des épisodes précédents. Et du coup, les trois derniers étaient vraiment sympas. Donc, je suis content. Mais je vais pas dire c'est ma série préférée du MCU. C'est juste... un petit peu de fanservice ici et là, et puis c'est sympa. Si on reprend les épisodes dans leur ensemble, il y avait Captain Carter, Star-Lord T'Challa, s'il n'y a plus d'Avengers, ces trois-là, ils étaient sympas, j'ai trouvé. Les trois suivants dont on avait parlé la dernière fois, c'était Doctor Strange qui a perdu son amour. Bon, il était sympa, mais voilà, sans plus. What If Zombies, moi, j'avais beaucoup aimé. Je pensais que tu l'avais bien aimé aussi, What If Zombies.
J'ai trouvé ça divertissant, mais non, ça m'a pas ouais, beaucoup intéressé. Sans plus, quoi. Ouais.
Et puis, Killmonger, Rescue de Tony Stark, clairement, on trouve que c'est à peu près le plus faible. Je vais partir du principe que tu trouves aussi que c'est le plus faible et que Thor... D'accord, donc il n'est pas meilleur que celui avec Thor. Celui avec Thor, pas quand même... Ok, très bien.
Oui.
Notre amitié est sauvée. mais donc, tu vois, ça fait, on va dire, toi, t'as quand même... beaucoup moins aimé que moi, parce que j'ai l'impression que la moitié des épisodes t'ont pas vraiment plu du tout.
Ouais, c'est ça.
Moi, il y en a, je dirais, deux qui m'ont pas plu du tout. Les autres, c'était genre moyen à sympa. Donc, mais je comprends ce que tu veux dire, effectivement. On n'avait pas forcément besoin de... On aurait pu enlever, 25 à 30% de la série et elle s'en serait mieux portée. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mais du coup, comme on le disait depuis le début, ça devient compliqué c'est une proposition compliquée parce que t'as envie de revoir les Gardiens du Multivers. Clairement, on s'est attaché un tout petit peu. C'est le truc auquel on s'est le plus attaché, je crois. Mais peut-être que ça sera le thème récurrent, tu vois, des What If, qu'il y aura certains épisodes où on va réunir certains des Gardiens du Multivers de temps en temps et qu'il y aura des différents personnages qui vont rentrer dans le groupe, en repartir... et que ça gardera la trame principale des What If, d'explorer des trucs qui n'ont rien à voir, peut-être avec des petites touches ici ou là de rappel d'autres éléments du multivers What If. Est-ce que ça t'irait ou tu resterais... tu vois, si on commence à voir des petites touches du multivers What If dans... pas chaque épisode, mais de temps en temps, ça crée un petit peu cette cohérence et cet attachement. Est-ce que ça te suffirait ou non, cette formule, si on refait la même chose avec cette petite touche de familiarité en plus, ça reste moyen pour toi?
Disons que si on fait une saison 2 en disant on refait la même chose, c'est-à-dire 8 épisodes, enfin 7 épisodes avec des personnages des nouveaux qu'on connaît pas, qu'on expose, et puis deux qui se réunissent, ça m'intéresse pas beaucoup.
Captain Carter qui débarque dans l'un des épisodes,
etc. je vais quand même être...
Si c'est What If avec des personnages différents, mais dans un des épisodes où on parle de, j'en sais rien moi, de l'histoire, si Rocket Raccoon n'avait pas fait partie des Gardiens de la Galaxie, et puis il y a, peut-être pas T'Challa, Star-Lord, parce que ça fait trop facile, mais il y a Party Thor qui débarque, tu vois, pendant 5 minutes. Donc ça ajoute cette petite touche de familiarité, ça te parlerait?
J'avoue que ça me passionne pas plus que ça. Ouais, je le regarderai quand même, hein, j'ai pas d'attente, quoi. J'aimerais quand même qu'ils annoncent des choses un peu plus surprenantes, ou je sais pas trop par où ils peuvent aller. Mais on verra. De toute façon, il y a une saison 2, elle existe. Enfin, elle est en préparation, donc
peut-être l'année prochaine.
On saura. Et je crois que ça arrive assez rapidement, mais je suis pas sûr.
D'accord. Bah, très bien. Ouais. C'est certainement plus facile à produire que leur gros machin filmé. Très bien. Bon, écoute, What If, un peu déçu pour Johan. Et moi, un peu moins déçu pour Patrick, on va dire ça comme ça. L'autre truc dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est la série Star Wars Visions. Alors, comme on le dit souvent, on parle essentiellement de Marvel et du MCU, mais on fait aussi des petits écarts à nos principes de temps en temps.
Des lasers aussi.
Voilà. C'est ça, exactement. Il n'y a pas que des super punch, il y a aussi des lasers. Et du coup, on va vous parler un petit peu de Star Wars Visions. Alors, on n'a pas vu tous les épisodes, on va vous parler, je crois, des 4 premiers, quelque chose comme ça. Et on ne va pas détailler chaque épisode, mais plutôt nos impressions dans l'ensemble. Je vais rappeler peut-être de quoi il s'agit. C'est une série de dessins animés, là aussi, dans l'univers de Star Wars, et qui ont été confiés à des animateurs, des réalisateurs japonais. Donc c'est vraiment Star Wars en animé, avec des sensibilités 100% japonaises. Et c'est des histoires indépendantes qui, a priori, contrairement à What If, hein, encore que, on sait pas, on les a pas tous vus, mais ne se réunissent pas du tout au final. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, en tout cas, du tout, dans les premiers épisodes qu'on a vus. Johan, qu'est-ce que tu as pensé de ces Star Wars Visions ?
J'avais une énorme attente, parce que du coup, j'adore les studios impliqués dans le projet, j'adore l'animation japonaise, plus que l'animation normale, hein, et j'aime bien Star Wars, relativement bien, et du coup, c'était vraiment un projet qui me parlait. Il faut dire que ça commence fort. J'ai trouvé l'épisode 1 vraiment incroyable. C'est l'épisode 1, c'est un peu un mélange du coup Star Wars avec du Kurosawa, donc on a un espèce de Yojimbo, donc qui est un samouraï solitaire dans un village, personne le connaît, mais il fait ses petits trucs, et puis voilà, il va se mêler à la bagarre de l'empire qui vient dans ce village là, et voilà. Alors j'ai trouvé ça vraiment super. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais visuellement, j'ai trouvé ça vraiment super convaincant. J'aurais été vraiment partant. Alors, les épisodes sont très courts, hein. Ils durent moins de 20 minutes. C'est entre 15 et 20 minutes selon les épisodes. Mais moi, j'aurais été partant de voir un truc comme ça pendant 2h30, hein, sans problème.
Sur le premier, tu voulais dire. Mais
ouais,
oui, moi,
juste le premier, ouais, parce que pour moi, il est vraiment à part. Mais...
Bah, le premier, je vais juste dire mon avis sur le premier. Effectivement, graphiquement, c'est celui qui dénote le plus. Et il est absolument, il est vraiment particulier, et je trouve qu'il est très réussi, effectivement, et que c'est presque un truc qui vient naturellement dans l'univers de Star Wars. Le fait que, justement, l'idée d'un Yojimbo, ça colle tellement à ça, c'est presque étonnant qu'il n'y ait pas eu ça avant. C'est étonnant que personne ne l'ait fait avant.
On sait que Lucas était très fan des films de Kurosawa, et ça transpire, hein, dans la mythologie de Star Wars, quoi. C'est des samouraïs, les mecs, hein. Il y a pas de,
donc
c'est
non, ça non, bien du sûr, coup mais je veux
ça,
dire...
ça fait que la fusion, en fait, elle est parfaite, quoi.
Complètement.
Et je trouve ça a un peu été une révélation, hein, ce premier épisode pour moi. Ouais. Donc c'est vraiment, je crois que c'est mon Star Wars préféré, du coup. Hein,
D'accord, carrément.
Visions, ouais.
J'irai peut-être pas jusque là, mais ce que je veux dire, c'est que clairement cette idée du samouraï solitaire dans un village perdu, ça colle tellement bien à Star Wars / Kurosawa, que c'est ça qui m'étonne, en fait, que personne l'ait fait avant. Et peut-être qu'il y a dans les comics ou dans les bouquins, dans toute la mythologie Star Wars, ça existe quelque part, mais bon. Donc oui, moi je suis d'accord, c'était très très bien, c'est surprenant graphiquement, ça colle parfaitement, donc c'était très sympa. Moi je vais pas dire que je l'aurais regardé pendant 2 heures, mais c'était clairement très sympa. En 15 minutes, c'est un bon moment. Les autres, tu dis,
pour moi, les autres sont un peu en dessous. Alors déjà, dès le suivant, moi j'ai décroché, j'ai pas réussi à être à fond dedans 15 minutes déjà. Donc c'est l'histoire avec les jeunes qui font de la musique, quoi. Ouais. J'ai trouvé ça très joli, hein, d'un point de vue visuel, animation et tout ça. Mais l'histoire, ça m'a vraiment pas transporté. Et le suivant, qui est le troisième épisode, qui est réalisé par j'ai oublié, Trigger, c'est ça le nom du studio, qui font Kill la Kill et Promare, hein, qui sont des films qui sont assez chouettes par ailleurs. Et là, pour le coup, c'est quasiment que de la bagarre de sabre laser, mais très, alors là, pour le coup, grandiloquent Japanimation too much où ils se mettent debout sur les vaisseaux pendant qu'ils sont en vitesse lumière pour faire un super gros coup de sabre. C'est là, on est vraiment dans quelque chose de complètement délirant. J'ai trouvé ça très très chouette, mais bon voilà, le problème c'est que le premier épisode était trop bon et du coup j'ai été à chaque fois un petit peu c'est quand même moins bien, tu vois. Et puis voilà, et ça continue. Moi j'en ai vu plus, hein, juste pour pas pour refaire du coup épisode par épisode, mais je trouve ça génial en fait. Même quand j'aime pas.
Ah, même pour les épisodes qui t'ont moins convaincu.
Ouais, enfin, il y a un épisode que j'ai pas aimé, mais en fait c'est le concept. J'aimerais que qu'il y ait d'autres projets de ce type-là. Ça rappelle Animatrix, hein, qui avait fait un peu la même chose, sauf que c'était tout canon, hein, par rapport à The Matrix. Mais c'est ce concept effectivement de donner carte blanche à des créateurs. Donc là en l'occurrence c'est des studios d'animation japonaise, mais on pourrait imaginer aussi d'autres choses. Pour créer des courts-métrages ou des choses comme ça basées sur des univers. Je trouve ça vraiment génial, en fait, ce type d'exploration. Donc, je regarderai la suite avec vraiment, vraiment grand intérêt. Là, je dois être à l'épisode 5, je crois. Et puis voilà, moi, ça me remet dans du Star Wars parce que, il faut le dire, c'est que j'étais fan de Star Wars quand j'étais plus jeune. Très, très fan, hein, même avec la prélogie. J'adorais la prélogie quand j'étais plus jeune. Et
je crois qu'on ne peut adorer la prélogie que si on l'a vu quand on était jeune.
Je pense. Moi, quand je la regarde maintenant, ça m'intéresse beaucoup moins. Oui. Mais du coup, la dernière trilogie m'a sorti assez brutalement, en fait. Enfin, m'a fait me rendre compte que finalement, est-ce qu'on est vraiment fan de Star Wars quand on a aimé que 3 films sur 9, tu vois. C'est toujours un petit peu.
T'aimes pas la trilogie originale, en fait?
Si, en fait, j'adore la trilogie originale. J'aimais bien quand j'étais jeune la prélogie. Et puis, à force de le revoir, je me suis rendu compte que, bon, peut-être je suis peut-être pas si fan que ça. Et du coup, moi, ça m'a remis un peu dans ce que j'aime de Star Wars, en fait, justement, dans ces ambiances, ces mythologies. Parce que tous ces épisodes-là, ça s'attarde quand même beaucoup sur la mythologie revisitée, en fait, façon un peu japonaise, hein. Le quatrième épisode, on est complètement dans de la religion, de l'animisme appliqué à la force, et du coup moi ça m'a vraiment vraiment parlé, en fait, d'avoir cet angle complètement différent et qui s'écarte complètement, parce que là pour le coup ils font ce qu'ils veulent, hein. Je pense que ça sera jamais canon, il y a aucun problème, ils peuvent inventer des choses, et je trouve ça vraiment très très réjouissant à regarder.
D'accord. Je t'avoue que moi, j'ai, comme on le disait, pas mal aimé le premier épisode. Je suis moins enthousiaste que toi sur le reste. C'est sympa. Et effectivement, j'apprécie énormément l'effort, l'idée de se dire on va laisser carte blanche. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Le truc, c'est que je trouve que ça a beaucoup d'originalité dans la forme, mais ça manque d'originalité dans le fond, en ce sens que on est systématiquement... Enfin, j'ai l'impression que 3 épisodes sur 4 que j'ai vus, c'est un Sith qui est là. Et tout à coup, oh mon Dieu, c'est un Sith. Mais il y en a combien? Il y en a partout. C'est tout le monde est un Sith.
Les Jedi,
en fait.
Ouais. Tout le monde a des pouvoirs, ouais.
Ouais, mais non, mais je veux dire, c'est même pas... Il y en a... en tout cas, dans au moins 2, il y a des Sith. J'avais l'impression, bon, peut-être que c'est un truc que je m'accroche à un détail et que c'est
non, mais
normalement il y en a 2 des Sith, tu vois, il y a le maître et son apprenti et c'est tout. C'est ce que j'avais compris de l'origine, et je suis pas du genre à me dire mais c'est comme ça dans l'épisode numéro 3, c'est ce qu'il dit l'empereur et donc c'est impossible. Mais il n'empêche, tu vois, alors autant dans le premier, encore une fois, t'as la surprise et tu t'attends à ce que ça soit un Jedi, le Yojimbo, tu dis c'est bon, je sais quoi. Et du coup, quand c'est ainsi, t'as une vraie surprise et tu dis putain, ok, d'accord. Et ça justement va à l'encontre de tes attentes et des conventions. Et donc ça, c'est très cool. Mais quand alors peut-être que dans le deuxième il n'y a pas de Sith, mais dans le troisième c'est 2 Sith jumeaux, et je crois bien que dans le quatrième c'est un Sith aussi, mais je suis plus tout à fait sûr. Alors, en tout cas, c'est un Jedi.
Oui.
Ça commence à faire alors. Évidemment, je suis d'accord que, si on est sincère, la chose la plus intéressante de Star Wars, c'est les Jedi, c'est la mythologie, un petit peu la religion Jedi, et les Sith et tout ça, c'est ça qui est marrant avec les sabres laser. Mais à force d'en avoir partout, ça devient un petit peu moins impactant, on va dire. Donc c'est ça qui m'a un petit peu déçu. J'ai aussi trouvé que, autant c'était marrant, la plupart des bases d'histoire étaient sympathiques. Moi, je me suis retrouvé, comme toi, dans plusieurs épisodes, à regarder ma montre au bout de 10 minutes, tu vois. Donc, c'est pas très bon signe. Tatooine Rhapsody avec les musiciens, j'ai trouvé l'idée très sympa. Et tu vois le fait que, justement, ils approchent ça avec le côté musique. En plus, je suis encore en train de jouer à The Artful Escape. Donc, j'étais en plein dans cet univers, tu vois. Ça collait très bien. Les Twins, c'était marrant de les voir se battre sur des vaisseaux dans le vide intersidéral à vitesse supraliminale. et puis, la fiancée du village, j'ai trouvé un petit peu chiant, je t'avoue. Je vais regarder peut-être de temps en temps. Encore une fois, c'est 15 minutes, donc c'est pas la fin du monde. Mais après un premier épisode vraiment convaincant, je me suis un peu lassé, on va dire. Et peut-être qu'ils ont gardé le meilleur pour la fin, comme avec What If, hein, c'est tout à fait possible. Donc, je vais continuer. Mais voilà, mon impression au final est quand même un petit peu mitigée, même si je suis comme toi très fan de l'idée de base, on va dire.
Ouais, juste pour revenir, effectivement, hein, moi qui en ai vu un peu plus, c'est beaucoup de Sith, beaucoup de Jedi. Et en même temps, tu te dis, si t'es un studio et qu'on te dit, bon, tu peux faire 15 minutes sur Star Wars, indépendamment des autres, tu te dis, ah ben, on va faire des Jedi, quoi.
C'est ça, exactement.
Et il n'y a pas forcément eu de
coordination,
d'éditorialisation de ce truc-là. Mais heureusement qu'on a The Mandalorian pour faire un peu de Star Wars sans Jedi et rendre ça intéressant surtout. J'ai hâte de voir la suite quand même. Alors je sais pas, je me ferai aussi des trucs petit bout par petit bout. Malheureusement, ils ont tout sorti d'un coup. Moi, ça m'arrange pas. Je suis pas quelqu'un qui binge les séries en fait. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Mais du coup, je me regarde un épisode de temps en temps comme ça. D'accord. Et puis on pourra en redire si on a changé d'avis une fois qu'on aura vu tous les épisodes.
Ça marche. Très bien. Donc voilà pour Star Wars Visions. Et je suis d'accord que le problème, c'est que tu fais les choses indépendamment et tu dis à chacun, tu veux parler de quoi ? Bah oui, tout le monde va choisir le truc. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, on va faire un jeu avec un héros et tu choisis le héros qui représente le plus ton audience et tes acheteurs potentiels. Et tu te retrouves avec tous les jeux du monde qui ont une variation sur Nathan Drake, le mec blanc avec les cheveux courts qui a 35 ans. Et voilà, 35-40 ans. Et c'est l'héros de tous les jeux. C'est un petit peu ce problème, en fait. On est en train de pointer du doigt les problèmes de woke de Star Wars Visions. Il faut plus de représentativité dans l'univers de Star Wars Visions que juste des Jedi. Ça suffit. Les Jedi sont partout. Et en plus, ils ne représentent même pas une majorité de l'univers Star Wars. Donc, je pense que nous avons pointé du doigt le vrai problème de Star Wars Visions.
Le vrai problème de Star Wars.
Mais c'est vraiment ça, quoi. Et j'imagine qu'ils auront intégré la chose. Je pense que quand ils l'ont vu, tu vois, ils sont dit... Ah bah merde, en fait on a...
Ouais.
Ok, on a quelques Jedi.
La même chose.
Ouais, donc peut-être que la prochaine fois pour la saison 2, je suis sûr qu'il y aura une saison 2, on va essayer de se répartir les trucs, tu vois. C'est un peu d'ailleurs comme dans... Bon, on revient à des choses qui n'ont rien à voir, et je vous promets, je vais finir là-dessus. Dans le développement de World of Warcraft, Warlords of Draenor, il y a eu un gros... Je crois que c'est public, cette histoire, mais il y a eu un gros souci pendant le développement, c'est qu'ils ont réparti les zones par différentes équipes dans le studio de développement, et chaque équipe s'est mise à développer en parallèle. Et ils sont revenus au bout de quelques mois pour voir ce qu'ils avaient fait, je caricature mais à peine, et ils se sont rendus compte que tout le monde avait fait des orques. Parce que Draenor, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de World of Warcraft, c'est la maison mère, la planète où les orques ont évolué, ils ont été créés. Et du coup, tout le monde avait fait des orques. Et il y avait des orques partout, il n'y avait que des orques. Et donc, ils se sont regardés, ils ont dit « merde ». Et c'est pour ça que le jeu a pris beaucoup... Enfin, c'est pour ça que cette extension-là a pris beaucoup plus de temps à être terminée que prévu, comme elles ont toutes pris plus de temps, mais celle-là, c'était pour cette raison. Et donc, ils ont dû retravailler le truc pour pas avoir que des orques partout. Là, on a que des Jedi et des Sith partout. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit détour par l'historique du développement de World of Warcraft. Et donc, pour conclure, on va vous dire un petit mot sur Venom, puisque le deuxième film sort dans une semaine en Europe, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Et a priori, on ne va pas en parler dans l'émission, ou en tout cas, on ne va pas faire un épisode spécial pour en parler. D'une part, parce que chez moi, je ne pourrais pas le voir avant, je crois, le 23 ou quelque chose comme ça. Et puis d'autre part, parce que Johan déteste Venom. Il pense que c'est la pire chose que la Terre ait jamais portée. Et il préférerait se couper un bras plutôt que d'aller voir Venom 2. C'est bien ça, hein, j'ai bien compris.
T'es pas trop loin. En fait, c'est ça. C'est que j'ai vraiment détesté le premier au point d'être parti.
Carrément. Pendant le film.
oui. J'ai arrêté le film. Je sais pas, à la moitié, quoi. Et j'ai laissé tomber, quoi.
D'accord.
J'ai vraiment pour moi, c'est vraiment au niveau de Catwoman. Hein, je suis dans la hiérarchie des des mauvais films. Je le mets pas trop loin. Alors, il est plus récent, donc il a peut-être des effets spéciaux plus réussis.
C'est même discutable. Hein, c'est discutable.
Mais ouais, j'aime pas du tout ce qu'on fait la production, ni même les acteurs pour leurs personnages. J'ai vraiment pas aimé. Et le 2 a l'air de poursuivre sur cette voie-là. Et puis, les retours de critiques disent que c'est encore plus too much. Parce qu'en fait, il faut le dire, hein, Venom a été un carton. Peut-être un des plus gros cartons de Sony. Et Venom 2 est le film, je crois, qui marche le mieux depuis 2019, depuis la fin de la pandémie, quoi. Depuis la pandémie, c'est le plus gros carton d'Hollywood, hein, parce qu'en Chine, ils ont peut-être fait mieux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc ça s'annonce pour un très grand carton. Mais du coup, les critiques disent qu'ils ont fait comme le 1, en tout plus, ils ont mis les potards au maximum sur tous les trucs, quoi, en se disant, ça a marché, on refait, quoi. Mmh. Et du coup, j'ai bien la sensation que je vais pas passer un très bon moment, donc je m'abstiens, je garde mon argent, et je vais le placer ailleurs, voilà.
Je comprends. Écoute, je peux pas vraiment... Je trouve que t'es un peu dur quand même avec le film, mais en même temps, je reconnais qu'il est clairement pas très bon du tout, voire très mauvais. Allez, je vais être sincère, je trouve très mauvais. mais moi, je passe pas forcément... C'est très mauvais, rigolo, je trouve. J'ai pas passé un mauvais moment avec Venom 1. On peut peut-être en dire deux mots, hein. J'imagine que vous l'avez vu, mais même si vous l'avez pas vu, c'est tellement attendu et ridicule qu'on vous gâchera pas grand chose en disant le méchant est très méchant, il est ridicule, le scénario tient pas debout, le héros et les personnages en général en font des tonnes. Je trouve que la relation entre Venom et Tom Hardy et Eddie Brock est rigolote. Elle tient la route plus ou moins. Ils en font beaucoup, mais ça tient la route. Dans l'ensemble, si je l'analyse à froid, je suis d'accord qu'il n'y a pas grand-chose à sauver de Venom et je recommanderais à personne d'aller le voir parce que c'est clairement pas un bon film. En disant qu'il est aussi mauvais que Catwoman, je trouve que tu y vas un peu fort, mais c'est pas que je m'offusquerais d'une telle caractérisation non plus, quoi. C'est bon, voilà. J'irai peut-être le voir parce que le cinéma me manque et que j'avais pas passé un trop mauvais moment avec le premier, mais effectivement, je comprends que tu veuilles pas, toi, t'infliger un second et que du coup, on en parlera sans doute pas. Ou peut-être que quand je le vois un jour, j'en dirai trois mots.
Tu nous diras ce que t'en as pensé.
C'est ça. Et à mon avis, je peux déjà vous faire une preview de ce que j'en aurais pensé. Je pense que ça sera... oui, c'est pareil que le 1, quoi. C'est à peu près la même chose. C'est aussi débile. C'est aussi mauvais. Et voilà. Donc, je pense pas que ça... Ce qu'il y aura une grande surprise sur Venom 2. Donc bon, c'est pas sur ça qu'on va s'attarder. On rappelle, hein, je suis sûr que vous le savez, mais... Venom, c'est une propriété Sony, donc qui est en train de développer son univers, pas multivers, mais son univers.
Je crois que leur nom, c'est le Sony Spider-Man Universe.
D'accord. Bon, le SS.
Et ils n'ont pas de film Spider-Man, mais ils ont un Sony Spider-Man Universe.
ils sont en train de développer. Il y a. Merde, comment il s'appelle le vampire
Morbius.
Morbius. Ouais, je sais plus. Et puis, bah, on se doute bien que avec Spider-Man Far From Home qui arrive à Noël, autour de Noël, il va se passer un truc qui va faire splitter. Moi, j'ai pas vu les trailers, donc je saurais même pas spéculer, mais qui va splitter les choses et Sony va récupérer au moins une version de Spider-Man, si ce n'est toute. Et du coup, ils vont développer effectivement leur Spider-Man Universe avec différents films, différents personnages. Si leur univers, c'est à la hauteur de Venom, je pense qu'il ne va pas faire très, très, très long feu non plus. Encore que, comme tu le dis, il marche très bien, hein, Venom, au ciné. Donc, mais je me demande si ce n'est pas l'envie des gens d'aller au ciné en même temps. Mais je ne sais pas. Peut-être que Marvel se dit, bon, bah, on va les laisser se casser la gueule et dans 5 ou 10 ans, on leur proposera 2 milliards pour racheter Spider-Man. Et voilà. Mais bon, Sony n'a aucun intérêt à vendre Spider-Man, à revendre Spider-Man à Marvel, parce que je doute qu'ils se cassent tellement la gueule que ils vont surfer sur les super-héros en général, quoi. Mais en même temps, je trouve que si tout est à la hauteur de Venom, je trouve que le Spider-Man Universe de Sony risque d'être même encore plus mauvais que le DCEU. Et c'est pas que j'adore le DCEU déjà à la base. Donc, en même temps, il fait de l'argent, donc je sais pas. Tu vois, est-ce que tu as vu Wonder Woman 1984, par exemple ?
Oui, j'ai malheureusement.
Oui, on avait peut-être parlé même déjà.
Ouais, je crois qu'on en avait dit un mot, ouais.
Ouais. Tu vois, ça, c'est plus mauvais que Venom, non ? Ce
non.
film. Non ?
Non.
Très bien. Non, non. Et après, je peux même pas te dire...
Je comprends ce que tu veux dire par le côté mauvais et rigolo. Alors moi, du coup, ça n'a pas marché sur moi, mais ça m'arrive hein, d'aimer des films, on va dire, objectivement mauvais, mais parce qu'ils m'ont fait marrer à leur insu ou quoi. Venom me l'a pas fait, Wonder Woman encore moins, mais voilà, ouais, je comprends hein, qu'on puisse passer un bon moment, il n'y a aucun problème. Hein. Passer un bon moment devant Venom, les gens, hein, je ne vous juge pas. Hein. Enfin, si, je vous juge, mais je ne vous le dis pas.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, en fait j'aimerais pouvoir te dire « Ah, mais t'as vu que la moitié, c'est pour ça que t'as pas assez rigolé. » Il y a quand même quelques moments un peu marrants, en fait, parce que t'as pas vu vraiment quand Venom rentre vraiment dans la partie, quoi. Et c'est là que les moins pires moments sont... Mais en même temps, je peux pas vraiment, en gardant une straight face, te dire « Ah, mais si tu le vois en entier, ça sera moins mauvais, parce que je peux pas du tout te le garantir. » Bah, écoutez, ça va être tout pour Venom. Et du coup, comme tu l'évoquais tout à l'heure, peut-être avant qu'on lance l'enregistrement, bah, on rentre dans un désert, dans une période sombre.
Oh là là, je sais pas ce qu'on va faire. Un mois et demi, Patrick.
En même temps, attends, il sort quand, Eternals ? C'est pas début
c'est en novembre.
Début novembre.
Bonne question.
Je crois que c'est genre le 8 novembre, quelque chose comme ça. 5 novembre aux US.
Ah, mais...
Donc on a à peine un mois en fait de
désert. Je pensais que c'était fin novembre, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était 20 novembre, un truc comme ça. Donc,
C'est début novembre.
Où ça va en fait ?
Voilà, du coup ça va aller, on pourra faire dans un mois un petit épisode spécial Eternals. Et après, on a le 23 novembre, je crois, Hawkeye, qui est lancé. Ouais. Donc, on va pouvoir repartir sur nos épisodes hebdomadaires.
Et après,
coup, parce
on a
que pour
les...
Hawkeye, on essaiera
les...
de faire toutes les semaines, j'imagine. On essaiera.
Je pense que le premier épisode nous donnera le ton, en fait. On pourra se dire si ça vaut le coup ou pas. Mais du coup, il y a aussi Netflix qui sort ses 20 films de Noël, petit à petit, entre novembre et décembre.
Attends, tu veux qu'on fasse des épisodes sur... Eh ben moi, je suis partant, hein. Netflix Christmas Universe.
Bon, on peut s'en sélectionner quelques-uns, si tu veux. Hein.
Ah, mais
moi, ça me dit bien.
À fond. Alors, il faudra... En fait, c'est vraiment des films plaisir que je regarde avec ma femme. Il faudra qu'on se trouve les moments pour les regarder avec elle. Je sais pas si on les...
C'est le Noël, hein.
Ouais. Ah non, mais à fond, carrément. Oui, très bien. On fera au moins un épisode spécial de... Comment ça s'appelle ? De Royal Prince, de Royal Baby. Tous ces trucs-là qui sont formidables. Ouais. Le Netflix Christmas Universe, le NCU, que si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre à le découvrir et à l'aimer. Merci
c'est
beaucoup.
Important.
Oui, non, mais c'est absolument essentiel. Merci beaucoup, Johan, pour
merci.
Fort sympathique. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans Super Les Apanti ?
Alors, moi, je suis sur Twitter, @johant_.
Le lien sera dans les notes de l'émission, évidemment. Et pour ma part, je suis NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, et tous les liens vers tout ce que je fais sont sur notepatrick.com. Vous pouvez avoir là-dessus les liens vers le rendez-vous tech, où je résume l'actu tech toutes les semaines avec des invités de tout l'univers de la tech, et le rendez-vous jeu, où je résume l'actu jeux vidéo toutes les semaines, également avec des gens de tout le panorama médiatique francophone du jeu vidéo. Donc rejoignez-nous si vous n'écoutez pas déjà ces émissions, je pense que vous apprécierez. On vous remercie tous et puis on vous donne rendez-vous donc dans quelques semaines pour un nouveau Super Laser Punch. Ciao, ciao!
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.